Bonjour et bienvenue, 14h TU, 15h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, l'avancée dans l'est du Congo des combattants du M23 appuyés par le Rwanda. Ils sont arrivés à Bukavu. L'Union africaine met en garde contre une balkanisation de la RDC. Le nouveau chef de la diplomatie américaine effectue sa première tournée au Moyen-Orient. Reçu à Jérusalem, il s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou. Sa visite coïncide avec l'arrivée en Israël d'une importante cargaison d'armes américaines à suivre dès le début du journal. Fin ce dimanche de la conférence de Munich sur la sécurité. Elle aura été largement dominée par l'Ukraine. Quelle place pour l'Ukraine et ses alliés européens s'il y a des négociations de paix? Le sujet sera abordé demain à Paris en présence de plusieurs dirigeants européens. Dans ce journal aussi, les hommages rendus à Alexei Navalny un an après la mort en détention de l'opposant russe. Le secrétaire d'État Marco Rubio donc est à Jérusalem. Première visite en Israël d'un haut responsable de l'administration Trump. Elle est dominée par des entretiens avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou au lendemain du sixième échange otages prisonniers sur fond de trêve fragile avec le Hamas. Marco Rubio n'est pas venu les mains vides. On a aussi appris en effet ce matin l'arrivée en Israël d'une importante livraison d'armes lourdes américaines. Information Muriel Paradon du ministère israélien de la Défense.
Le ministère de la Défense israélien a envoyé à la presse internationale des images de nuit sur lesquelles on peut voir des containers débarqués d'un bateau et chargés sur des camions. Cela se passe, nous dit-on, au port d'Ashdod, à une trentaine de kilomètres de la bande de Gaza. Ces cargaisons contiennent des bombes lourdes de type MK84, selon le ministère. Des bombes à fragmentation particulièrement destructrices, elles sont soupçonnées d'être à l'origine des dégâts considérables à Gaza et du nombre très élevé de victimes. Plus de 48 000 morts, en majorité des civils. Joe Biden avait suspendu la livraison des bombes lourdes, mais depuis, Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Il a approuvé début février une vente d'armes à Israël pour un montant de 7,4 milliards de dollars. En communiquant sur cette livraison aujourd'hui des bombes MK84, l'État hébreu envoie un double message. Le soutien des États-Unis est indéfectible et c'est un avertissement au Hamas, alors que la trêve reste fragile à Gaza. La guerre peut reprendre à tout moment.
Muriel Paradon, les entretiens de Marco Rubio en Israël se tiennent au lendemain du sixième échange d'otages à Gaza contre des prisonniers palestiniens. Israël ouvrira les portes de l'enfer à Gaza si tous les otages ne sont pas libérés, menace Benjamin Netanyahou. En RDC, le groupe M23, soutenu par l'armée rwandaise, continue son avancée au sud de Kivu. Situation toujours incertaine dans la grande ville de Bukavu. Si des rebelles s'y trouvent, ils n'en revendiquent pas la prise de contrôle. Réunis en sommet à Addis Abeba, l'Union africaine a mis en garde contre une balkanisation de la République démocratique du Congo, tout en appelant au retrait immédiat du M23, et ce sans nommer le Rwanda. C'est une information qui est passée plus ou moins inaperçue, mais qui pourrait bien expliquer les tensions croissantes entre les États-Unis et les pays européens membres de l'OTAN. Des tensions très palpables tout au long de la conférence sur la sécurité qui prend fin ce dimanche à Munich. La Finlande l'affirme. L'administration américaine a envoyé peu avant la conférence un questionnaire aux pays européens. Il aurait demandé de préciser quelles garanties de sécurité il pourrait fournir à l'Ukraine. On peut y voir un préalable aux discussions de paix que Washington souhaite mener avec la Russie. Romain Lemaresquier.
C'est le président finlandais qui l'a annoncé ce samedi. Washington a bien envoyé cette semaine un document avec des questions sur les moyens que les pays européens seraient en capacité de déployer en Ukraine si d'aventure un accord était trouvé avec la Russie pour mettre fin à la guerre. Il y est question notamment de la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine, mais aussi des armements et des dispositifs de sécurité. Si le département d'État américain n'a pas souhaité commenter cette information, selon l'agence Reuters, quatre autres sources européennes confirment la réception de ce questionnaire. L'Europe, qui ne devrait pas participer aux discussions avec la Russie, comme l'a encore confirmé ce samedi le général Chris Kellogg, envoyé spécial de Trump sur ce dossier, est donc appelée à contribuer à la mise en place de garanties de sécurité en Ukraine, contrairement aux États-Unis qui, de leur côté, ont toujours affirmé qu'ils ne comptaient pas déployer de troupes sur le sol ukrainien. Il s'agit donc d'un sujet sensible qui sera certainement abordé ce lundi lors de la réunion convoquée en urgence à Paris avec les principaux pays européens qui portera sur la sécurité européenne.
Réunion convoquée par le président Macron. Dans une semaine se tiendront les élections législatives anticipées en Allemagne. À une semaine du scrutin, les conservateurs sont donnés largement favoris. À en croire les sondages, le chancelier sortant, le social-démocrate Olaf Scholz, ne sera pas reconduit sur le réseau X, ex-Twitter. Olaf Scholz rend hommage à Alexei Navalny, mort en prison il y a tout juste un an. Mort, je cite, parce qu'il s'est battu pour la démocratie et la liberté en Russie. À Moscou, plusieurs centaines de personnes se sont recueillies ce matin sur la tombe de l'opposant russe. Dans ce pays, c'est toujours un sujet très sensible. Évoqué en public, l'opposant ou son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption, peut valoir de lourdes sanctions. Le journaliste et écrivain Philippe Diatko a bien connu Alexei Navalny. Il revient sur ce que représente aujourd'hui sa figure.
Je pense qu'ils avaient peur d'Alexei Navalny vivant et ils en ont peur maintenant qu'il est mort. Les autorités en ont tellement peur qu'elles ont même envoyé en prison ses avocats. Des journalistes sont aussi en prison parce qu'ils ont parlé de lui. Je pense que les mots d'Alexei Navalny, si je suis tué, cela signifie que nous sommes plus forts que jamais. Ça ne sont pas que des belles paroles. C'est aussi un fait dans le sens où son meurtre est le résultat de la peur. Mais je considère qu'Alexei Navalny ne combattait pas Poutine. Pendant une bonne partie de sa vie, il a effectivement combattu le régime de Poutine. Mais les derniers mois avant sa mort, j'ai le sentiment qu'il n'était plus question de Poutine, mais plutôt d'histoire. Il dialoguait avec l'histoire, la grande histoire. C'est pourquoi lorsque nous parlons de lui, on ressent de l'espoir, parce que notre pays traverse des années terribles. Mais si nous connaissons l'histoire, nous savons que tout change et nous croyons en l'avenir. Et en ce sens, Navalny restera l'homme de l'avenir, l'homme de l'histoire.
Philippe Diatko avec Anastasia Becchio. L'Autriche s'est réveillée sous le choc au lendemain de l'attaque au couteau perpétrée dans le sud du pays par un demandeur d'asile syrien. Elle a coûté la vie à un adolescent et blessé 5 autres personnes. Âgé de 23 ans, le meurtrier présumé a été arrêté. Un islamiste présumé qui s'est radicalisé sur Internet a déclaré ce matin devant la presse le ministre autrichien de l'Intérieur. Bousculade tragique en Inde. Au moins 18 personnes sont mortes dans une gare de New Delhi. C'était au départ de train à destination d'un pèlerinage hindou dans le nord du pays. Le ministère chinois des Affaires étrangères se rend aujourd'hui en Irlande, reçu par son homologue et par le Premier ministre Mira Martin. En un an, c'est déjà la deuxième visite en Irlande d'un haut responsable chinois. Des nouvelles du pape soigné pour une infection respiratoire. François, 88 ans, a pu assister ce matin à la messe à l'hôpital où il a été admis vendredi. Dans l'actualité politique en France, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, annonce la tenue d'un congrès du Parti Socialiste au mois de juin. Il sera candidat à sa propre succession après déjà 7 ans à la tête de sa formation. Toujours en France, le dénouement d'une incroyable découverte. Une statue en bronze de Camille Claudel, le très longtemps recherchée, est aujourd'hui vendue aux enchères à Orléans. Son nom, l'âge mûr. Il existe 2 autres originaux exposés au musée d'Orsay et au musée Rodin. Celle-ci est estimée à près de 2 millions d'euros, à une histoire bien particulière. Marius Roland, bonjour.
Bonjour.
Cette première version, en effet, a été retrouvée dans un appartement parisien abandonné.
Oui, c'est un scénario digne d'un biopic ou d'un film d'histoire. À quelques encablures de la Tour Eiffel, un appartement plongé dans le noir depuis 15 ans. Sa propriétaire avait quitté quelque temps Paris pour Orléans, où elle est décédée, jusqu'au jour, le 17 septembre 2024, où Mathieu Semon, commissaire priseur, vient en faire l'inventaire. Partout de la poussière, des draps blancs sur les meubles. C'est sous un de ces draps qu'il découvre par surprise l'une des œuvres les plus mythiques de Camille Claudel, perdue depuis près d'un siècle. Cette sculpture est autobiographique. Elle met en scène le déchirement d'une passion. Une femme agenouillée, c'est Camille. Elle supplie un homme qu'elle a aimé, le sculpteur Auguste Rodin. Il lui tend la main, mais se tourne désespérément vers une troisième personne à son épaule, sa compagne Rose. Il y a 25 ans, le commissaire priseur avait travaillé sur ce chef-d'œuvre, toujours autant ému d'avoir été celui qui a mis la main dessus, il espère que l'âge mûr sera vendu à sa juste valeur.
Marius Roland, merci à vous. On ajoute que le début des enchères par la maison Philocal, c'est tout à l'heure 16h au conservatoire d'Orléans. Enfin, les tensions politiques sont fortes actuellement entre les États-Unis et le Canada, situation qui n'épargne pas le sport, en particulier le hockey sur glace, très populaire dans les deux pays. Le premier match disputé depuis plusieurs années entre le Canada et les États-Unis a viré au chaos hier soir à Montréal. Plusieurs bagarres ont éclaté sur la patinoire et l'hymne national des États-Unis a été copieusement hué et sifflé par les supporters locaux. Voilà, bonne journée sur RFI. Tout de suite, bonne pulsation.